Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service en direct de Tchikapa dans la province du Kasaï. On va parler dans cette deuxième partie du programme de la réinsertion sociale des ex-combattants dans le Kasaï. Voilà, toute l'équipe technique toujours bel et bien là. Tati Mapoukou, Paul Badianyama, Justin Siala. Et la présentation, c'est Marcel Ndombombala. Sous vos applaudissements.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Bien, merci de nous suivre partout. À travers la République démocratique du Congo, c'est votre magazine de la vie au quotidien, Okapi Service en direct de Tchikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. Et vous savez, dans cette province du Kasaï, plusieurs ex-combattants de Kamouina-Nsapro bénéficiaient depuis 2020 du programme de démobilisation, désarmement, réinsertion sociale, en fait, de faciliter leur autonomisation à Tchikapa et ses environs, c'est dans les cadres du projet SS4 financé par les PBF, attendez, le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix et autres partenaires techniques et financiers dans la région du Kasaï. Quelles sont les différentes formations reçues par ces ex-combattants en vue de leur réinsertion sociale dans la région? Que pensent les personnes démobilisées des pouvoirs réalisés en leur faveur? On en parle dans cette deuxième partie de ce magazine Okapi Service avec nos invités. Nous avons deux dames qui viennent de nous rejoindre sur ce plateau justement pour aborder cette question. J'ai à ma droite Madame Virginie Moussamba, analyste des droits de l'homme au bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Bonjour Madame Virginie Moussamba.
Bonjour Monsieur le journaliste.
Et bienvenue dans cette émission. Merci de l'applaudir. Et à ma gauche, nous avons Madame Philomène Mwamba, directrice de l'ONG ADDFO, c'est l'association pour la défense des droits des enfants, femmes et opprimés. Madame Philomène Mwamba, bienvenue dans cette émission.
Bonjour.
Et merci également de l'applaudir. Et nous avons à l'extrême gauche Monsieur Davidson Wen KMB que nous avons encore gardé pour cette deuxième partie. Je rappelle qu'il est chef de division provinciale genre, famille et enfants ici dans la province du Kasaï. Alors, cette première question, je me tourne vers Madame Virginie Moussamba qui est à ma droite. Alors, dites-nous, pour ce qui est de la réinsertion des ex-combattants comme Kamouina Nsapro, qu'est-ce qui a été concrètement réalisé ici à Tchikapa, bien entendu, peut-être aussi aux environs de Tchikapa, pour ce qui est du projet BBF?
Merci beaucoup pour la question. En ce qui concerne la réinsertion des ex-combattants dans le cadre du projet BBF, le Fonds de consolidation de la paix, il y a des activités que nous avons menées. Il y a des ex-combattants qui ont été réinsérés dans la société. Vous savez que lorsqu'ils ont fait la démobilisation après les élections de 2018, il y a beaucoup qui avaient participé aux atrocités. Et ces gens-là n'étaient pas vraiment la bienvenue au sein de communautés et même dans leur famille d'origine. Ce sont des personnes qui ont été rejetées. Pourquoi? À cause de ce qui avait été fait. Et c'est comme ça que dans le cadre du projet de la consolidation de la paix, nous sommes mis avec les autres agences des Nations Unies pour travailler dessus. Et qu'est-ce qui a été fait exactement? Nous avons dans le cadre du projet, par exemple, lorsque je veux parler du projet sur la gouvernance inclusive dans le Kasaï, le projet GIC, le projet de la cohésion sociale. Dans ce projet-là, il y avait des résultats que nous devions atteindre à tout prix. Nous devons mettre ensemble les femmes et les jeunes afin que ces femmes et ces jeunes-là puissent participer de manière responsable à la vie citoyenne et qu'elle puisse prendre part aux initiatives de paix. Et c'est ainsi que, lors de nos activités avec le jeune et les femmes, nous avons mis tout le monde ensemble. Tout le monde a été capacité, tout le monde a bénéficié de mêmes opportunités afin de leur permettre de participer aux initiatives de paix. Parce que lorsqu'on parle des initiatives de paix, on ne peut pas faire la distinction entre hommes, femmes, entre les ex-miliciens et entre les autres communautés qui, du reste, n'avaient pas participé aux atrocités. Et c'est comme ça que, prenant compte le premier résultat, nous avons eu à aider le gouvernement provincial de notre province de Kasaï à mettre en place ce qu'on appelle le comité provincial de la jeunesse. Au sein de ce comité-là, il y a tout le monde. Il n'y a pas d'exclusion. Nous avons aidé le gouvernement provincial à avoir un plan provincial sur la résolution 1325 qui parle de femmes, paix et sécurité. Et vous connaissez vous-même l'ampleur de cette résolution-là. Or, à l'époque, dans notre province, ça n'existait pas. Et c'est toujours dans le cadre de projets de cohésion sociale. Il y a d'autres activités que nous avons menées. Nous avons mis en place des clubs d'écoute pour les jeunes. Et la majorité des gens qui sont avec nous ici font partie de ces clubs d'écoute-là. Nous avons aussi mis en place... Oui, je disais que nous avons mis en place les clubs d'écoute de jeunes pour permettre aux jeunes de Tchikapa, aux jeunes du Kasaï, de prendre part aux initiatives de paix, de prendre part à la vie citoyenne. Parce que lorsque nous étions sur terrain avec les ex-miliciens, beaucoup nous ont dit que non, ils ont été exclus de la gestion de la chose publique. Et vous connaissez comment est composé notre gouvernement, non seulement le gouvernement national, même au niveau provincial, même dans les territoires. Au conseil local, dans les territoires, il n'y a pas de jeunes. On ne fait pas participer de jeunes, alors que les jeunes sont majoritaires. Lorsque vous prenez la population... Les jeunes sont majoritaires, mais ce sont ces jeunes-là qui sont exclus de la gestion de la chose publique. Les jeunes sont exclus. Là où on prend des décisions, il n'y a pas de jeunes. Mais comment on va les promouvoir?
Et cela a donné des résultats. Finalement, est-ce que le message est passé? On a su voir comment impliquer les jeunes dans la gestion?
Justement, actuellement, c'est un processus.
Oui.
Nous avons des jeunes qui gèrent déjà au niveau de l'Assemblée provinciale. Nous avons des jeunes au niveau des institutions étatiques. À la DGRKC et partout ailleurs, il y a des jeunes qui sont dans la gestion de la chose publique. Donc, ces résultats ont été atteints.
D'accord.
À 100%.
Alors, pour ce qui est de la réinsertion sociale des ex-combattants, qu'est-ce qui a été fait concrètement?
Ce qui a été fait concernant la réinsertion, c'est quoi? Avec les autres partenaires. Parce qu'il faut aussi savoir que non, dans le projet, chaque agence intervient dans son mandat. Il y a ce que nous faisons, par exemple, dans le projet sur la gouvernance inclusive. C'est un projet conjoint avec ONU Femmes. Nous avons un autre projet qu'on a appelé Justice pour la femme et le jeune. Dans ce projet-là, il y a World Vision, il y a aussi UNHCR. Alors, dans ce projet, il y a des paliers. Donc, il y a ce que le BCNJA peut faire. Il y a les aspects qui concernent uniquement le HCR. Il y a d'autres aspects qui concernent l'ONG internationale, Vision mondiale. Donc, il n'y a pas de mélu-mélo. Moi, en tant que bureau conjoint, je veux parler de ce que nous avons fait sur le terrain concernant votre question. Alors, qu'est-ce que nous avons fait concernant le projet pour la réinsertion? Nous avons d'abord formé les jeunes sur l'ABDH, l'approche basée sur le droit de l'homme. Ça signifie quoi? Ça signifie que les jeunes sont dans les corporations, dans les associations. Nous avons pris les associations de jeunes et nous les avons formés dans cette thématique-là. Parce que nous avons toujours remarqué dans notre pays, il y a des projets qu'on amène, des projets qui ne rencontrent pas le sentiment de la population.
La population a besoin de l'eau, vous vous amenez le marché. La population a besoin, par exemple, des écoles, vous nous amenez les hôpitaux. Donc, ce sont des projets qui sont contradictoires.
C'est-à-dire qu'on amène des projets, ça, d'abord, consulter la population.
Justement, c'est pourquoi nous avons commencé par l'ABDH, donc l'approche basée sur les droits de l'homme. On doit d'abord consulter les communautés. Vous avez besoin de quoi? Est-ce que vous avez besoin des routes? Vous avez besoin des écoles? Vous avez besoin de forage? Donc, vous avez besoin de quoi? Et ce n'est qu'après avoir eu les besoins de la population qu'on peut maintenant amener le projet. Comme dans la province du Kasaï, beaucoup de jeunes sont dans les ONG. Il fallait d'abord les renforcer dans ce sens-là. Quitte à leur tour, PBF est venu pour leur montrer comment on peut demander un financement. Parce qu'ils ne doivent pas tout attendre des agences, non. Ce que le gouvernement ne peut pas faire, les agences peuvent venir en appui. Mais aussi, notre rôle est de capaciter les jeunes là pour leur montrer comment ils doivent se prendre en charge avec des micro-projets.
Alors, cette question pour ce qui est, par exemple, de la dimension genre, est-ce qu'on a essayé un peu pour, dans ce que vous avez fait comme travail, ou continuez à faire comme travail, de considérer aussi l'aspect de la dimension genre?
Tout à fait, ça a été pris en compte. Et je me rappelle que c'était même dans cette salle. Ici au Kasaï, on avait un gouvernement masculin, un gouvernement provincial masculin. Donc, au sein du gouvernement, il n'y avait pas de femmes. C'est dans cette salle que nous, avec les autres collègues d'autres agences, dans le cadre de PBF toujours, nous avons organisé le plaidoyer. Et ici, il y avait les autorités provinciales. On a réuni les jeunes, on a réuni les femmes. Un plaidoyer a été fait ici. Les femmes et les jeunes ont exigé au gouvernement provincial, au gouverneur, de remanier son gouvernement. Et de prendre en compte les femmes. C'est ce qui a été fait. C'était dans cette salle.
Voilà, donc c'est que la dimension genre n'a pas été négligée. Nous avons une femme, une Philomène Mamba, qui est sur ce plateau, qui est directrice de l'ONG des défauts, Association pour la défense des droits des enfants, femmes et opprimés. Alors, Madame Philomène, cette ONG, d'abord, expliquez-nous rapidement, c'est quoi le but poursuivi par cette ONG?
Oui, nous sommes une organisation non gouvernementale. On s'occupe des femmes et des enfants. Et puis nous luttons contre l'impunité des violences sexuelles comme travail de routine dans cette province. Nous avons commencé ce travail depuis longtemps, depuis la création des cliniques juridiques par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, à travers les 11 provinces de la RDC à l'époque. On continue jusqu'à présent dans la lutte contre l'impunité des violences sexuelles. En ce qui concerne dans cette ville, nous avons commencé à l'époque où cette ville était encore territoire. Aujourd'hui, devenue province, nous sommes là. Nous luttons toujours sur l'impunité des violences sexuelles. On encadre des enfants. Nous avons des centres multifonctionnels d'encadrement des enfants, des femmes et autres vulnérables.
Ah d'accord, ça c'est le travail assigné à votre ONG. Alors parlons-nous un peu de ce qu'a fait peut-être la contribution de votre ONG ou bien par exemple son partenariat ou bien le travail que cette ONG fait avec le bureau ici à Chicapa, du bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme.
Oui, le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, c'est notre partenaire de routine, notre partenaire de longtemps, mais à travers les projets ici PBF, Nous sommes bénéficiaires du projet JIC sur la consolidation de la paix. Il y a eu des résultats qui ont été atteints.
Et ces résultats, on peut les connaître?
Oui. Ces projets, nous avons travaillé d'abord avec nos deux cliniques. La clinique juridique de Kamonya, vraiment là où c'était les bastions des atrocités dites au phénomène Kamuina Sapu, et puis la clinique juridique de Chikapa basée ici dans la commune de Mbumba. Nous avons fait l'accompagnement judiciaire, nous avons fait aussi l'accompagnement psychosocial des survivantes de violences sexuelles. Mais concernant les chiffres, comme vous le dites, messieurs les journalistes, Nous avons accompagné judiciairement à travers notre clinique 150 dossiers des survivantes de violences sexuelles répartis comme suite. Au niveau 79 jugements obtenus, au niveau des tribunaux de paix, nous avons 30 dossiers. Au niveau des tribunaux de grande instance, nous avons 46 dossiers avec jugement. Au niveau des tribunaux militaires, nous avons 3 dossiers aussi de viols par les policiers avec jugement. Et il y a d'autres dossiers qui sont en cours. Ça, ce sont des résultats atteints par rapport au projet JIC. En dehors de ces résultats, on a eu à sensibiliser nos communautés à travers les deux cliniques. Il y a eu 2000 personnes sensibilisées à travers nos cliniques avec l'information juridique.
Dans les cliniques juridiques ici, les personnes viennent dénoncer ou bien viennent porter plainte. Comment vous faites pour convaincre ces personnes pour les cas de violence sexuelle de ne pas hésiter, de ne pas se cacher, venir plutôt à dénoncer, se présenter? Comment ils font pour qu'on arrive à la clinique juridique?
Oui, nous sommes une clinique qui date de longtemps. Oui. Je vous ai dit, nous sommes installés ici depuis 2011. Oui. Nous sommes déjà une porte ouverte. Je pense avant que les communautés viennent vers nous, on a eu à sensibiliser avant les communautés à travers les 5 communes de la province du Kasaï et là où il y a aussi nos points focaux dans les territoires. À travers les points focaux dans les territoires qui connaissent bien nos services, ils viennent vers nous. Ils savent déjà que là des défauts. Puisque la DDFO n'a pas commencé ce travail de clinique pendant les atrocités.
Ah, vous avez commencé
nous
déjà bien avant.
Nous avons commencé bien avant. Et toutes ces ONG qui pilulent aujourd'hui nous ont trouvés sur terrain en train de travailler. On n'a pas même beaucoup d'efforts à faire pour que les victimes.
On peut applaudir pour la DDFO. Voilà. On parlait de cet ONG à des défauts avec des cliniques juridiques qui existent depuis longtemps. Oh, et comment c'est fait maintenant par rapport à ces cliniques juridiques? Comment la collaboration s'est faite avec le Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme?
La collaboration, les BCNIDH, en fait, les bureaux du terrain, c'est notre partenaire potentiel puisque tout ce qu'on fait, la DDFO fait le monitoring des lieux de détention. Oui. Il ramène tous les cas, la documentation des cas auprès de notre bureau du terrain et tout ce qu'on fait, puisque c'est grâce à eux qu'on a eu à connaître aussi ce travail. On remonte les dossiers auprès d'eux et le reste c'est à leur niveau, ils savent comment ils le font. En dehors de ces cliniques, nous bénéficions d'un kiosque pour une information à travers les projets PIBF. Nous avons bénéficié d'un kiosque dans la commune de Mbumba, il y a un kiosque, il y a des documents là-dedans, une mini-bibliothèque. Pour ceux qui ne savent pas, je lance aussi, ceux qui cherchent à lire la documentation sur les droits des femmes, les droits de l'homme, nous avons toute cette documentation-là, à travers aussi les digitales. S'ils veulent consulter, ils peuvent consulter aussi pour connaître tous ces droits-là avec un moindre coût. Avec un moindre coût, à travers notre kiosque, il y a du café, il y a du lait. Si vous voulez prendre avec moindre coût, en lisant là, vous allez prendre. Mais la bière, il n'y en a pas.
Voilà. Voilà, le message est passé. Hein. J'espère que... Il y a des étudiants qui sont dans la salle, peut-être aussi des gens qui travaillent déjà, qui sont intéressés par cette formation.
Aux étudiants, surtout les étudiants du droit, je vous invite à venir auprès de nous, consulter tous les documents possibles. À travers les kiosques, on a eu au moins à sensibiliser les gens qui sont venus auprès de nous, 500 personnes qui sont venues s'informer pour connaître leurs droits. On était là pour les expliquer. Oui. Juridiquement. Ils sont venus, on a eu à enregistrer 500 personnes dans la commune de Mbumba. Et pour d'autres communes, il y a d'autres kiosques, mais je parle des kiosques de l'ONG à des défauts. Oui. Ceux qui sont les universités qui sont là, ils peuvent venir vite.
Voilà, le message est passé. On va revenir à vous, Madame Philomène Mwamba. Le temps pour nous de nous tourner vers notre invité, Monsieur Davidson Wankaimbe, chef de division provinciale, Jean Famille Enfant, province du Kasaï. C'est par rapport à la réinsertion sociale de ZEC démobilisés. Dites-nous comment le gouvernement provincial s'est impliqué dans ce travail.
Merci bien. Je m'appelle Lydia Fwamba. Je suis journaliste à la radio Les Ondes du Progrès. Deux petites questions. La première, c'est adressée à Monsieur Divigeor. Dans le cadre de tout le projet exécuté par le BCNIDH, grâce au fonds PBF, vous, à votre niveau, en tant que division du genre famille et enfants, qu'avez-vous déjà fait de concret ou que prévoyez-vous faire pour pérenniser tous ces projets dans la province du Kasaï? Et à Madame Philomène Mwamba, vous êtes de la ADDFO. ADDFO étant une clinique juridique, que faites-vous pour décourager les arrangements à l'amiable, qui est pratique très courante ici, hein, et pratique vraiment peu commode, mais qui se font entre les magistrats eux-mêmes? Est-ce que vous pensez réellement que ces victimes-là vivre aussi une justice équitable? Voilà mes deux préoccupations. Merci.
Bah, Tati, il y a une autre main par là, oui, voilà. Vous présentez et vous posez votre question.
Ok, merci beaucoup, cher présentateur. Moi, c'est John Kalé, je suis étudiant de l'IEC. Ma question est simple à Madame Philomène. Madame, comme vous venez de les dire, 80% de la population ne connaissent pas la loi. C'est pourquoi ils commettent plusieurs infractions sans les savoir. Alors, à votre niveau, qu'est-ce qui vous empêche d'apprendre la population de la province du Kasaï de savoir aussi la loi de notre pays? Merci.
Voilà, on va répondre d'abord à cette première série des questions et puis on va revenir aux autres mails. On ne vous a pas oublié. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de questions adressées à nos panélistes sur ce plateau. Alors, Madame Virginie Moussamba, elle avait cette question sur les critères pour les formations organisées et comment ça se passe. Et puis, cette question sur la réinsertion de groupes de milices, c'était à quel groupe vous avez eu à réinsérer dans leur famille?
Merci beaucoup pour les questions. Répondant à la première question, s'agissant de conditions pour participer aux différentes formations, il n'y a pas de conditions. Mais le problème est que lorsque nous voulons organiser une formation, on se réfère au niveau des divisions. Si nous avons besoin d'une formation avec les ONG de la société civile, des femmes, nous allons à la division. C'est au niveau de la division qu'il y a la liste des ONG qui sont en conformité avec l'État. Pour la jeunesse, c'est la même chose. Vous savez que nous avons la division de la jeunesse. C'est auprès des deux divisions que nous obtenons la liste actualisée des ONG œuvrant dans la province du Kasaï. Alors, si vous êtes membre d'une ONG quelconque et que vous n'avez jamais été à la division, il vous sera donc difficile de participer à nos formations. Ce n'est pas que... c'est ça la condition. Est-ce que êtes-vous affilié à l'une des divisions que nous avons dans notre province ici? Donc, c'est ça la condition. Si votre ONG est affiliée, votre ONG, vous avez déposé vos documents à la division genre, à la division jeunesse, lorsque nous voudrions organiser une activité, nous nous référons à ces deux divisions selon les thématiques. Peut-être que vous êtes ONG, vous intervenez dans X thématiques, mais nous voulons faire la formation dans Y thématiques. Automatiquement, vous ne serez pas appelé. J'espère que je me suis fait comprendre. Ça, c'était pour la première question. Pour la deuxième question, oui, nous savons que dans notre province, il y avait des miliciens comme Wenan Sapou, il y avait des Banamoura, il y avait aussi Ekuri Mbembe. Mais à ma connaissance, après les élections de 2018,
Ce sont les miliciens Kamwena Nsapu qui ont fait la démobilisation spontanée. Ils sont venus d'eux-mêmes, ils ont déposé les armes au niveau du commissariat, au niveau du régiment. Pour les autres groupes-là, comme Jean-Paul l'a dit tout à l'heure, dans le cadre du projet SS4, pour nous, les bureaux conjoints, le travail continue, parce que nous n'avons pas encore terminé avec ce projet-là. Mais néanmoins, nous avons été à Kamonia, qui fut l'épicentre des atrocités, nous avons été à Luebo, nous avons été à Ilebo, précisément Ilebo secteur au sud de Banga. Et là-bas, nous avons fait un travail. Mais le travail là n'est pas encore fini parce qu'il y a eu des consultations dans cette salle. Lorsque nous avons fait des consultations, tout le monde a été appelé. Nous étions autour d'une même table ici. On a tenu compte de toutes les tendances. Il y a les gens de Dekese, les gens de Kamonia, les gens de Luebo, Mweka, Ilebo qui étaient ici. Et au moment où je vous parle, nous attendons les résultats là parce que ça doit être validé. Et après cette étape-là, nous allons continuer. Mais je sais qu'avec les autres structures, les autres agences, on a fait la réinsertion des autres miliciens. La réinsertion a été faite avec les autres agences, mais pour nous, dans le cadre du projet SS4, comme le travail continue, je ne saurais pas vous dire que non, nous avons réinséré X groupe et nous n'avons pas réinséré Y ou bien Z groupe. Je crois avoir répondu à votre question.
Voilà, il y avait également deux ou trois questions pour Madame Philomène Mamba, directrice de l'ONG à des défauts. Il avait ces questions, vous avez parlé des cliniques juridiques, mais il y a un intervenant qui a dit qu'apparemment les bourreaux courent les rues, alors que vos cliniques juridiques sont là pour essayer de voir comment sanctionner tous ces auteurs de violences sexuelles. Il avait également la question de Madame Lydia et qui a parlé encore de vos cliniques juridiques. Que faites-vous pour décourager les arrangements à l'amiable?
Merci beaucoup. Je commence d'abord avec la question de Monsieur John. John a parlé sur l'ignorance de la loi. J'espère que c'est l'ignorance de la loi qui tue. C'est pour cette raison dans nos cliniques et c'est pourquoi nous sommes dotés à travers le projet PIBF, nous sommes dotés avec des kiosques pour avoir des instruments juridiques qui parlent sur les droits de l'enfant, qui parlent sur les droits de la femme. Vous, en tant qu'intellectuel, vous êtes dans la salle là, je vous vois et je vous connais. Combien de fois vous êtes venus au sein de nos structures pour venir apprendre? Point d'interrogation.
Mais s'il y a ceux qui sont déjà passés dans leur structure dans la salle,
si, qu'ils lèvent les doigts.
Ne vous gênez pas, s'il y en a...
Oui.
Apparemment, il y a...
Je n'en disconviens pas. Concernant l'ignorance de la loi, c'est ce qui tue vraiment. Puisque cette loi sur les violences sexuelles s'est sortie depuis 2006. Depuis 2006, et vulgarisée même. C'est suite à cela que nos structures sont là. Il y a les instruments juridiques qui parlent de ça. Mais si vous ne connaissez pas, on va vous tromper. Et il y a certains aussi qui ont fait les droits. C'est une nouvelle loi. Qui ne connaissent pas cette loi-là. Il faut encore des sensibilisations. Mais avec nos partenaires, nous sommes outillés. Il y en a qui ne savent pas. Quand il s'agit de viols, les viols par exemple, c'est l'une des formes de violences sexuelles. Vous verrez dans nos quartiers, quand il y a viol, ils parlent de violences sexuelles. Oh, il y a eu violence aussi longtemps que c'est l'ensemble. C'est comme l'arbre qui résume de toutes ces formes de violences qui sont érigées dans des infractions punissables par la loi. Il faut connaître, approchez-vous. Là où il y a des cliniques juridiques, il y a aussi à Fejiko qui a la clinique juridique, il y a à Raprodoc qui a la clinique juridique, ce n'est pas seulement des défauts sur l'étendue de la province du Kasaï. Approchez-vous auprès de nous, nous allons vous apprendre sur les instruments juridiques qui parlent sur les droits de la femme concernant les violences sexuelles. Concernant Madame Lydia Fouamba, elle a parlé des arrangements à l'amiable. Les arrangements à l'amiable vraiment sont prohibés. Pour la loi, c'est prohibé. Mais vous trouverez dans des familles. Là aussi, je profite de cette occasion sur la radio Capi pour mettre un point. Pour parler au moins de ça, que les autorités qui sont les décideurs profitent de cette occasion pour trouver la solution. Depuis qu'on a commencé la lutte en 2010 jusqu'aujourd'hui, il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas qu'on a eu enregistrés. Je ne vais pas donner les chiffres puisque je serai malmenée. Il y a plusieurs cas qu'on a enregistrés. Il y a des dommages et intérêts donnés aux victimes. Jusqu'alors, aucune indemnisation. Il faut qu'on en parle. Aucune indemnisation. Et des fois, certains bourreaux sont relaxés. Et des fois, aucune victime n'a été indemnisée jusqu'à ce jour.
Est-ce que vous êtes dénoncé cela lorsque vous en parlez?
On en parle plusieurs fois. J'ai entendu quelqu'un parler du haut ici, dire qu'il y a déjà une loi en téléchargement sur l'indemnisation. Si cette loi sortait, en tout cas, je serais la première à sauter sur ça. Puisque sur l'étendue de la République, depuis qu'on a commencé dans cette ville, il y a plusieurs cas qu'on a dénoncés et plusieurs jugements qu'on a obtenus, même avec les bureaux conjoints, même avec l'Union européenne, avec plusieurs parties. Aucune victime n'a été indemnisée. Et ça décourage les familles des victimes. C'est ce qui les amène aux arrangements à l'amiable. Mais les arrangements à l'amiable sont prohibés et interdits selon notre loi. Mais à notre tour, en tant que les bailleurs qui viennent aussi, est-ce qu'ils peuvent avoir un bailleur qui peut venir aussi dire autant pendant 5 mois, combien de victimes ont été indemnisées? Jusque la personne, on souffre sur ça et ça pose des problèmes et c'est pourquoi les familles se mettent autour d'une table pour s'arranger. Nous, les cliniques, on ne participe pas à des arrangements à l'amiable. Ce sont des familles et non pas même les magistrats puisqu'ils connaissent bien la loi, ils savent bien que l'arrangement à l'amiable est prohibé. Qu'on commence d'abord par indemniser les victimes, après on continue dans la lutte. Si les victimes ne sont pas indemnisées, c'est comme quelqu'un qui a 2 pieds, qui marche avec 1 pied en train de boiter. Madame voilà, Lydie, je vous ai répondu.
Monsieur Davidson, il y avait également 2 questions pour vous. Il y avait cette question par rapport à... C'est Davidson qui a posé la question, oui. Si je me rappelle. Il a parlé des organisations du système des Nations Unies qui travaillent. C'est bon, c'est bien. Mais par rapport au gouvernement, quels sont les projets à votre niveau, du gouvernement provincial, que vous mettez en place pour la consolidation de la paix dans le Cassel? Il y a également cette question de Madame... Lydia, qui a cherché à savoir comment comptez-vous pérenniser à tous ces projets réalisés par les agents du système des Nations Unies.
Oui, merci beaucoup. En dehors des réalisations des agences, nous savons qu'on venait même de parler de ça ici. Les agences, quand ils s'amènent, ils ne viennent pas avec les activités. Les activités qui sont en train de mener un peu partout au Congo sont les activités du gouvernement. C'est le gouvernement qui possède toutes les bases de données possibles qui amènent les agences à intervenir. Alors, le gouvernement est appuyé par les agences. Tout ce qui est en train d'être fait sur terrain, on le fait au nom du gouvernement. Alors, il n'y a plus des activités. Les projets... Nous pouvons monter un projet, mais comme le gouvernement n'a pas suffisamment de moyens, nous attendons l'appui. C'est cet appui-là qui nous amène toujours à réaliser certains projets conçus par le gouvernement. Concernant aussi Madame Lydia, la pérennisation du projet de tout ce qui a été appuyé par le fonds PBF, le gouvernement a déjà pris une grande disposition. Nous menons des suivis dans les structures qui étaient appuyées. et créé aussi. Nous organisons des réunions avec ces structures-là. Il y a des orientations qui sont en train d'être données pour que les activités ne puissent pas s'arrêter. C'est ça et au moins ce qui a été fait par les gouvernements.
Et parce que ça, il faut le rappeler, hein, bien souvent après les départs, ça se passe souvent, c'est pas seulement ici dans le Kassai, c'est qu'on a remarqué à travers les pays, lorsque l'agence du système des Nations Unies vient de faire un travail, ou bien peut-être d'autres organisations, et après apparemment l'État ne sait pas pérenniser cela, et souvent on revient au point de départ. Et vous pensez vraiment que par rapport à la province du Kassai, toutes les dispositions sont prises de manière à ce que ce travail ne soit pas vain?
C'est par là que je voulais dire qu'il y a déjà un mécanisme. Parmi ces mécanismes-là, nous organisons les suivis. Nous organisons des réunions. Nous recevons les rapports de ces structures-là.
Oui.
Et c'est ce qui amène que... Et c'est ce qui fait que, même après le départ du projet, que les activités demeurent toujours dans la communauté.
Voilà, au Capi Service en direct de Chikapa, chef-lieu de la province du Kassai, où nous parlons de ce projet PBF pour la consolidation de la paix ici dans le Kassai. On va prendre une deuxième série et la dernière série des questions. Tati, dans la salle, il y a d'autres questions.
C'est Monsieur Willy, j'ai une question à Madame Philomène. Madame Philomène a dit qu'ils ont bénéficié d'un kiosque qui va permettre à la population de s'informer sur Internet. Mais pourquoi vous avez exigé l'argent pour que la personne accède à vos matériels alors que vous les avez reçus de manière gratuite? La question à M. Davidson.
Oui.
Aujourd'hui, les jeunes se lamentent. Ils disent qu'ils ont leurs projets, mais vous, l'État, vous ne parvenez pas à les accompagner pour qu'ils reçoivent des financements ou soit la mise en œuvre de leurs projets. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu de manière chiffrée les projets que vous-même avez déjà vous avez déjà pris en compte pour aider les jeunes à se développer, à s'autofinancer de manière par eux-mêmes, parce que ils viennent de plusieurs troubles, ils viennent des mouvements insurrectionnels, mais ils doivent aussi s'autofinancer à travers leurs projets. Mais vous-même, qu'est-ce que vous avez déjà fait par rapport à ça? Merci beaucoup.
Oui. À vous Merci. Lever, à vous présenter, oui.
Merci beaucoup. C'est l'étudiante Kabedi Nkelende Alphonsi. Je suis de l'ISC. Je suis en L1 comptabilité. Bon, justement, ce n'est pas une question, mais je voulais d'abord demander chez notre chef de division, déjà, et famille et enfants. Il nous parle toujours avec des préjugés. Il n'est pas vraiment stable. Donc, notre gouvernement provincial ne tient pas compte de la valeur des enfants ou soit des femmes. Nous interpellons à notre chef de faire un suivi général.
Un exemple concret de ce que vous êtes en train de dire pour aider à M. Davidson à bien répondre. Exemple concret, là on ne tient pas compte des droits des femmes, des enfants.
Ah oui. En tenant compte de ce qu'il parle, il ne s'attelle pas sur les droits, ce que la femme peut faire, ce que l'enfant peut prendre comme engagement, et ce que le gouvernement peut intervenir aussi si l'enfant est dans ses droits. C'est ce que je voulais vraiment que notre gouvernement nous aide. Merci beaucoup.
Voilà. Et d'autres questions? Oui, on vous écoute.
Oui, c'est M. Désiré Kouaï qui revient. Madame Virginie, par rapport à la réinsertion des ex-combattants de la milice causée par les atrocités de Kamouenansapou, vous pouvez nous dire exactement, en termes chiffrés, combien des ex-combattants vous avez réintégrés? Parce qu'aujourd'hui, il y a des maisons des ex-combattants dans des milieux comme Kamonia, des parcelles ravies par les chefs coutumiers, et les ex-combattants traînent ici en ville, ne savent pas récupérer leurs liés habituels. Donc c'est ma question, j'aimerais avoir des données en termes chiffrés.
Ce qui est scientifié,
Une question pour Madame Philomène. Avant d'abord de la poser une question, j'aimerais la rappeler qu'une fois, vous avez dit que personne dans la salle n'est déjà venu vous contacter par rapport à vos services, mais je sais que j'y étais déjà. Mais ce que je veux savoir, c'est quel mécanisme vous mettez en place, parce que votre clinique juridique, vous nous parlez de Tchikapa et de Kamonia. Mais au fin fond, là où il y a vraiment des cas, là où il y a des plus vulnérables, vous n'arrivez pas à atteindre ces cas-là. Pas au moins à, je dirais, à 45 km d'ici. J'y étais, je vous ai appelé autrefois, il y a des problèmes, il y a des enfants, il y a des femmes qui connaissent pas leurs droits, qui n'arrivent même pas. Il y a vraiment des cas, donc il y a des cas de viol, de violence sexuelle qui s'est fait de l'autre côté, mais d'où ils ne savent même pas qu'il existe des cliniques juridiques. Qu'est-ce que vous mettez en place pour que tout le monde dans la province puisse entendre parler de votre clinique juridique? À Monsieur Davidson, papa, qu'est-ce que le gouvernement met en place pour pouvoir nous dire aujourd'hui désarmer des autres milices comme des Ekiri Mbembe et l'Ekiri Banamoura? Parce que jusqu'alors, nous n'avons pas entendu parler de ces Ekiri-là. Nous ne savons pas parce que c'était politisé. Oh, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce que vous nous dites par rapport à cela? Parce que vous les avez cachés d'où jusqu'à aujourd'hui les armes qu'ils avaient. C'est alors eux-mêmes, les Kirim Bembe et les Banamoura qui détenaient vraiment des armes de militaires. Ils n'avaient même pas des armes blanches, mais ils avaient vraiment des armes qu'ils pouvaient tuer. Qu'est-ce qui est mis en place pour pouvoir désarmer ces Ekiri-là? Parce qu'il y a déjà beaucoup d'années qui se sont déjà écoulés et nous ne savons même pas qu'est-ce que vous avez mis en place. On n'en parle jamais. Ça, vraiment, jamais. On parle des Ekiri Mbembe, on parle de l'Ekiri Banamoura. Qu'est-ce qui est mis en place pour pouvoir désarmer ces groupes de milices?
Tati, je crois qu'on va prendre la dernière dame hein, et puis on va. Ça sera la dernière question.
Je suis Dormel Masanka Badine Bantou, étudiante à l'université du CEPROMAD campus de Tchikapa. La question, je la pose d'abord au chef de division de genre, famille et enfants. Je pense que la jeunesse est aussi dans ses attributions. Quel est le message qu'il a lancé aux jeunes qui étaient dans des groupes Ekiri Mbembe, Banamoura, qui ont rentré dans leur communauté, parce qu'ils ont on a parlé de la réinsertion dans leur communauté. Est-ce que réellement vous avez pensé que ces jeunes-là ont à lever ces esprits-là et ces imaginations-là mauvaises? Parce qu'il y a des tueries, il y a des conflits, et c'est eux-mêmes qui ont resserré des communautés, qui relèvent des problèmes et des situations dans des communautés aussi. La question à Madame Philomène. Madame Philomène, qu'est-ce que vous avez fait pour attendre les femmes qui ont été violées lors du mouvement comme Inan Sapou, Ekiri Mbembe et Banamoura? Parce qu'il y a d'autres femmes qui sont en train de pleurer là-bas et qui ne savent pas réellement quoi faire. Comme vous avez votre clinique juridique là. Il y a des femmes qui n'ont pas étudié, qui ne savent pas ce que c'est clinique juridique, qui ne savent pas où se placent vos cliniques juridiques là. Qu'est-ce que vous avez fait réellement pour que ces femmes-là puissent savoir si réellement elles sont violées ou pas et comment est-ce qu'elles peuvent dénoncer? C'est ça vraiment mes questions.
Voilà, Madame Philomène, beaucoup de questions pour vous. J'espère. Jetez-vous dans l'eau, allez-y quand vous le dites vous-même.
Je vais droit à la question de monsieur les journalistes. Vous avez dit on a reçu le
gratuitement
et vous demandez quoi, l'argent pour on demande l'argent. Je voulais juste vous dire que les projets naissent et meurent. C'est un projet de 9 mois. Je pense concernant les ordinateurs et consorts, il faut utiliser les consommables. On peut avoir donné à la DDFO comme on a donné là. Vous venez vous consulter. Il faut qu'on mette les consommables. Si ça s'épuise, nous, on ne saura pas croiser les bras. Et on est non gouvernemental. Il y a un moindre coût pour vous pour permettre à la structure de pérenniser ses activités. C'est pourquoi on vous demande ce peu de moyens là On ne peut pas laisser, puisque le projet était là, après 9 mois, on croise les bras. Non. Comme maintenant, là, les consommables, il faut acheter. Avec quel fonds on va acheter, puisque le projet NESMR, nous sommes presque vers la fin du projet. Nous devons faire la continuité, nous devons faire la pérennisation. Je pense que vous comprenez de quoi je parle. Concernant la question de Madame Sanctifiée Ngalula, je pense la DDFO travaille avec les juridictions, il travaille avec les parquets. Nous sommes ici au niveau de la province, nous travaillons avec le tribunal militaire, on travaille avec la police. Mais les coins et les recoins là de la province, on a un peu de points focaux. Il y a eu mon partenaire, le Bessinidash ici, qui a fait beaucoup d'efforts pour sensibiliser ensemble avec eux et d'autres acteurs qui sont ici sur place. Nous avons tellement sensibilisé sur les violences sexuelles. Je pense ici, au niveau du Kasaï, il est question de l'analphabétisation qui pose problème pour connaître de quoi on parle sur les violences sexuelles. Mais ça date de longtemps. J'ai dit, nous sommes là depuis que Tchikapa est territoire, dans le même travail. Et on a commencé à vieillir toujours dans le même travail. Les gens doivent avoir la culture de venir dénoncer. Je vous ai bien dit, avant c'était une seule clinique dans la province. Aujourd'hui, nous en avons plusieurs. Nous en avons plusieurs. Les coins et les recoins. Et puis c'est au niveau des juridictions que les dossiers sont traités. Ils doivent venir dénoncer auprès de nous pour les accompagner. C'est Madame Masanka qui parle de comment atteindre les femmes avec la sensibilisation, n'est-ce pas? Nous faisons la sensibilisation pour le moment là, dans des écoles partout. Durant les 16 jours d'activisme, on fait ce travail avec tous les groupes VBG. C'est le travail qu'on fait depuis que les atrocités ont commencé. Et puis, dans des coins et recoins là, ça demande la mobilité. Ça demande la mobilité pour atteindre. Il y a même à Kakenga, on arrive jusqu'à Kakenga pour ce travail. Ça demande de la mobilité pour arriver dans ces liens et recoins de la province. Et concernant encore Alfred, vous avez parlé des femmes. Vous êtes dans la salle? Vous avez parlé
des abus sexuels, c'est ça?
Des abus sexuels commis au milieu du travail. Oui, c'est David. Ces exploitations sexuelles sont dénoncées. Mais à ce niveau-là, il se pose un peu un problème, puisque c'est la femme elle-même qui a subi. Là-bas, il n'y a pas question de témoins. La femme qui a subi, qui a été harcelée au niveau du travail, soit elle a été touchée au sein par son patron, c'est elle-même qui a subi, qui doit dénoncer, il doit avoir des preuves elle-même pour nous dénoncer afin qu'on puisse faire le suivi de son cas.
Merci. Voilà. Merci d'applaudir pour Madame Philomène Mwamba. Nous rappelons que les directrices de l'ONG ADDFO, Association pour la défense des droits des enfants, femmes et opprimés. Madame Virginie, vous allez également réagir pour les questions qui vous ont été adressées.
Ok, je n'ai eu qu'une seule question. On nous a posé la question de savoir les chiffrer les nombres de ex-miliciens que nous avons pu réinsérer. Tout à l'heure, j'ai dit que dans ce qui nous concerne, nous, le bureau conjoint, dans le cadre du projet SS4, nous n'avons pas encore terminé toutes nos activités. Alors, il me sera difficile, parce que le projet a mis parcours, que je vienne ici et je vous donne les chiffres. Il faut attendre la fin du projet pour que nous ayons un rapport. Mais dans cette salle, nous avons formé les enquêteurs venus de nos 5 territoires de la province. Ces enquêteurs ont été déployés sur terrain, à Dekese, à Mueka, à Luebo, Ilebo et Kamonia. Ils ont fait un travail. Et le résultat du travail est au niveau du ministère national des droits humains. Nous attendons ces résultats-là et nous reviendrons ici pour la validation, l'appropriation par le gouvernement provincial. Dès qu'on aura fini cette étape-là, nous allons maintenant voir comment on peut mettre en place la commission
vérité et réconciliation. Ainsi de suite, nous allons continuer le processus. C'est lorsque nous aurons terminé tout le travail que nous pourrions venir ici haut et fort vous dire que non, voilà ce qui a été fait. Je voudrais aussi profiter de votre présence. Il y a un ami ici qui a posé la question sur l'initiation des jeunes à la vie citoyenne dans le cadre du projet sur la gouvernance inclusive que nous avons mené dans la province du Kassai. Oui, nous avons voulu impliquer la jeunesse dans la gestion de la chose publique. Parce que la jeunesse, comme on le dit, c'est l'avenir de demain. Et aussi dans le cadre de du lancement de l'initiative Déclaration universelle des droits de l'homme, 75e anniversaire. Nous allons mettre en place les clubs des droits de l'homme dans toutes nos universités, dans tous les instituts supérieurs de la place. Le travail a déjà commencé. Dans certaines universités, les clubs des droits de l'homme sont déjà mis en place. Et nous continuons avec les autres instituts supérieurs et les autres universités. Si nous ne sommes pas encore passés chez vous, attendez-nous d'ici quelques jours, nous allons passer. Et là, nous allons travailler sur comment faire avancer notre pays dans la justice pour tous, dans la liberté et dans la légalité. Donc, 75 ans, nous serons avec vous. Merci.
Voilà, merci d'applaudir également très fort pour Madame Virginie Moussamba. Nous rappelons qu'il est analyste de droits de l'homme au Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. On va terminer et clôturer avec Monsieur Davidson Ken KMB, Wen KMB. On a comme l'impression, si le constat est que le gouvernement provincial ne fait absolument rien en faveur de jeunes et des enfants. Rapidement, votre réaction. Rapidement, votre réaction.
Bon, je reviens à la première question. Là où on a dit que le gouvernement ne tient pas compte des projets des jeunes.
Ah, de manière globale, hein, monsieur, répondez de manière globale.
Oui, il a parlé d'une manière un peu globale.
Oui.
Mais moi, tout ce que je sais, bon, je ne suis pas de la jeunesse.
Oui.
Moi, j'encadre les enfants. C'est une tranche d'enfants seulement que j'encadre. Je n'encadre pas la jeunesse. Mais quand il y a... je reconnais bien que les services étatiques que nous sommes, les services étatiques n'ont pas de financement pour les projets, que ce soit des ONG ou encore de la jeunesse aussi. De la jeunesse aussi.
Voilà, merci beaucoup. Applaudissez également pour M. Davidson Nwankaembe. Nous rappelons qu'il est chef de division provinciale, genre famille et enfants, province du Kassai. Merci à tous nos panélistes pour votre participation. Non, c'est vraiment, c'est déjà la fin, monsieur, Davidson Nwankaembe. C'est déjà la fin. Du moins, on a retenu, hein, par rapport à ce que le gouvernement provincial pourra faire pour les jeunes et les enfants dans la province du Kassai. Et voilà. C'est par ici que nous mettons un terme à ce numéro du magazine Okapi Service de Pichikapa dans le Kassai. Sous vos applaudissements. Merci, merci, merci à toute l'équipe technique, à Tati Mapoukou, à Paul Badianyama, à JC Siala. Merci également à l'équipe du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme. Au micro, c'était Marcel Ndombombala. Au revoir, toi Sakidila.